Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Vont-ils garder leur emploi et pour combien de temps ? À Lisieux, en Normandie, les salariés de cette usine de production de Doliprane s'inquiètent depuis que Sanofi a annoncé être en négociation avec des investisseurs américains. Un coup dur, estiment ceux qui étaient en première ligne pendant le Covid pour pallier la pénurie de Doliprane.
Tout le monde, en fait, est venu travailler tous les jours pour produire ces fameuses petites boîtes jaunes pour couvrir le marché. Et c'était, on a été félicités. Et là, le remerciement que l'on a, c'est de se retrouver vendu.
Le géant pharmaceutique français Sanofi est en négociation pour vendre à un fonds américain sa filiale Opella, qui fabrique une centaine de marques vendues sans ordonnance, comme le Doliprane. Sanofi souhaite se concentrer sur des produits plus innovants et plus rentables. En urgence hier, pas moins de deux ministres ont été dépêchés à Lisieux pour rassurer les salariés et les élus. L'État exigera des garanties sur le maintien de l'emploi et la production d'antidouleurs à base de paracétamol.
Le Doliprane continuera à être produit en France, pas seulement parce que c'est un médicament plébiscité par l'ensemble des Français, pas seulement parce que c'est une réussite industrielle, mais parce qu'il en va de la souveraineté de notre pays.
Opération déminage, car l'annonce du passage du médicament le plus vendu en France, sous pavillon américain, a suscité une bronca chez les politiques de tous bords.
La vente à la découpe de la France se poursuit. Il serait incompréhensible que l'État laisse faire.
Aucune leçon n'aura été tirée du Covid. Je demande à ce que la France s'oppose à la vente d'Opella.
Alors l'État peut-il bloquer les projets de vente de Sanofi ? Faut-il vraiment craindre des ruptures de stock de Doliprane et des relocalisations ? Comment renforcer la souveraineté sanitaire de la France ?
Nos trois invités, Laurence Cohen pour commencer. Bonsoir madame, ancienne sénatrice du Parti communiste français. Vous avez été rapportrice de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française. Selon vous, ce projet de vente pose un véritable problème de souveraineté. Le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Il faut créer, dites-vous, un pôle public dans ce secteur pour reprendre la main. À côté de vous, Erwan Tison, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Économiste chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Selon vous, si la souveraineté de la France est remise en cause par la vente du Doliprane, enfin de Opella qui fabrique le Doliprane, eh bien ça veut dire qu'on est quelque part un pays du tiers-monde. La vraie souveraineté, selon vous, c'est de conquérir des marchés au niveau mondial et la stratégie de Sanofi est plutôt bonne, autrement dit, la vente. Et Nathalie Gimnès, bonsoir madame, docteur en sciences de gestion, spécialiste de l'industrie pharmaceutique. Votre ouvrage « Industrie pharmaceutique, l'heure du choix » est paru à l'Observatoire. Selon vous, ce n'est pas parce qu'un fonds de pension américain rachète la filiale de Sanofi qu'il n'y aura plus de paracétamol en France, paracétamol qu'on trouve dans ce médicament. Mais il est vrai qu'en matière de médicaments, le marché ne peut pas tout résoudre, il faut une coopération de l'État. Et on démarre avec un chiffre pour comprendre de quoi il retourne.
Un chiffre pharaonique, 15 milliards. Le laboratoire pharmaceutique Sanofi est donc prêt à céder sa filiale Opella qui produit de nombreux médicaments très consommés en France et sans ordonnance, notamment donc le Doliprane, un fonds américain CDR pour 15 milliards d'euros. Erwan Tison, ça vaut vraiment 15 milliards d'euros quand on sait, on entend dire que le Doliprane rapporte seulement 200 millions de bénéfices annuels à Sanofi.
Il n'y a pas que le Doliprane dans le chez Opella, mais après, s'il y a un vendeur à ce prix-là, ça veut dire qu'effectivement, ça vaut ce prix-là. Ce qui est intéressant
si c'est ce prix-là, c'est qu'il y a un acheteur.
C'est que le prix est le bon. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie. Aujourd'hui, Sanofi, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Il se trouve que la plupart des fonds d'investissement dédiés à la santé se disent on ne va pas forcément acheter du Sanofi parce que Sanofi ne représente pas forcément l'avenir de la santé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont absents sur les thérapies géniques, ils sont absents sur les technologies de pointe, sur les molécules rares et aussi surtout sur l'oncologie. Et Sanofi a communiqué en disant que
trouver les médicaments contre le cancer,
exactement, qui, je le rappelle, représente 75% des tensions de médicaments en France, plus 15 points ces 10 dernières années. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on vend quelque chose aujourd'hui qui, et on en reviendra après, mais n'est pas foncièrement important pour nous, ni d'un point de vue budgétaire, ni d'un point de vue souveraineté, pour se positionner sur des produits à forte valeur ajoutée et dont l'importance sanitaire est beaucoup plus importante que le Doliprane.
Laurence Cohen, c'est une aubaine. vu comme ça, pour Sanofi, pour notre pays, pour une grande industrie pharmaceutique.
Ah bah, présenté comme ça vient de l'être, on doit être réjoui. Moi, je suis très en colère, très révoltée par ce qui se passe, parce que ça va à l'encontre de ce que nous avons vécu, et nous l'avons tous vécu pendant la crise du Covid, où il y a eu des ruptures de médicaments. Nous avons émis un rapport qui a été voté à l'unanimité, quelles que soient les sensibilités politiques, et d'ailleurs, je l'ai apporté ici au niveau du Sénat, en 2023. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que Sanofi, en fait, brade. Et brade des médicaments qui sont des médicaments anciens, avec un jugement de dire bah, « ça ne nous rapporte pas assez, alors donc on va s'orienter vers l'innovation. »
Mais le paracétamol, est-ce que c'est si stratégique que ça ? Quand on sait qu'il y a du générique et qu'on peut en avoir à meilleur prix encore que le Doliprane.
Écoutez, en 2022, c'est plus de 420 millions de boîtes qui ont été vendues par Sanofi. Et je veux quand même dire, par rapport à ce qui a été dit précédemment, parce que c'est important qu'il y ait un échange contradictoire.
Bien sûr. On est là. Vous êtes là pour ça.
On est là pour ça. C'est que si Sanofi vend à 15 milliards, c'est parce que son objectif, c'est à peu près en 2030, récupérer 10 milliards pour les produits innovants, les médicaments innovants. Et si il n'est pas suffisamment performant, comme vous le dites, monsieur, au niveau de l'oncologie, c'est parce qu'il a bradé son secteur recherche et développement en faisant beaucoup de suppressions d'emplois. Et si vous avez interrogé les salariés, vous devez le savoir.
Mais il y a une stratégie, Nathalie Gémenez, derrière tout cela, quand même, ou pas
de la part de celle qui va réconcilier tout le monde. Parce que d'abord, ils n'ont pas vendu, c'est à 50%, donc déjà. Et qu'en fait, il faut distinguer deux métiers dans l'industrie pharmaceutique. Il y a aujourd'hui des métiers pour produire des médicaments dit de grande masse, qui coûte pas cher. Vous savez combien ça coûte le Doliprane ? 2,18 €. Ça demande énormément de production. Il y a des risques de production. C'est un métier. Et puis, il y a le métier de l'innovation. Et que, ben voilà, il y a des entreprises, moi je suis pas dans la... Je pense qu'il faut interroger Sanofi pour voir leur positionnement stratégique. Je pourrais vous dire que c'est pas les seuls. GSK, il y a encore pas si longtemps que ça, un grand groupe, ben, s'est séparé de son secteur grand public à Lyon, parce que ben, c'est important pour ces entreprises de se recentrer sur, voilà, sur un cœur de métier, parce que c'est compliqué.
Sur des médicaments à valeur ajoutée, vous appelez d'un côté les blockbusters, vous dites, et les niche-busters.
Oui, parce qu'avant, on lançait, c'est ce que je disais, dans mon, voilà, je disais effectivement, avant, on lançait des médicaments de grande masse, et puis on lançait des blockbusters parce qu'on agissait sur le volume. Et donc, de toute façon, vous savez, le médicament, c'est le seul produit où, à partir du moment où vous le lancez, le prix ne fait que descendre. Donc, vous voyez, donc il faut compenser forcément par après du volume. Et ensuite, oui, on est passé à des niche-busters, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher les prix les plus hauts, parce que de toute façon, ils vont diminuer avec une population qui va de plus en plus bénéficier des traitements.
Mais vous l'entendez, cette logique ?
Mais c'est une logique qui est complètement une logique capitalistique, parce que quand on voit que Sanofi fait 43 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien du tout, avec un bénéfice de 7 milliards, qui reverse plus de 4 milliards aux actionnaires, tout ça en 2022, on comprend quel est son but, et on peut s'interroger sur finalement... Est-ce que le but, c'est un but de santé et répondre aux besoins des Françaises et des Français ? Et moi, je m'inquiète en tant que citoyenne, en tant qu'ancienne élue, je m'inquiète sur le fait de me dire, mais alors, en cédant Opella à des fonds américains, est-ce que vous pensez réellement que les fonds américains vont être guidés par la santé de nos concitoyens et de nos concitoyennes.
Alors, vous n'êtes pas, la seule parmi les politiques à vous inquiéter de cette session. Plusieurs sont montés au créneau, tous bords confondus d'ailleurs, pour s'opposer à cette opération. Écoutez Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
C'est un scandale. Un scandale parce que nous croyions avoir tiré quelques leçons de la période Covid, où on nous avait expliqué, où le chef de l'État avait expliqué qu'il y avait un problème de souveraineté sanitaire, industriel, et qu'il fallait désormais faire en sorte que les produits qui sont essentiels, les médicaments essentiels à notre bonne santé, eh bien, puissent être préservés sur le sol national.
Erwan Tison, c'est vrai que pendant longtemps, on nous a dit qu'il faut qu'on protège notre souveraineté. industrielle et sanitaire. Ben, voilà, c'est l'occasion justement de défendre un fleuron français.
Bien sûr, je vais vous raconter une petite histoire. Le 3 mars 2020, le gouvernement indien, le Premier ministre M. Modi, décide d'interdire les exportations de paracétamol au niveau mondial. Okay. L'Inde qui concentre, je crois que c'est la moitié des principes actifs, la production de la moitié des principes actifs au monde. Il se trouve que pendant 2 mois, on a eu des gesticulations politiques ici en France en disant c'est scandaleux, l'Inde n'a pas à faire ça et tout. Silence radio du côté de l'Inde. Le secrétaire de la défense américaine a fait un petit message en disant si vous n'arrêtez pas ces exportations, enfin si vous ne reprenez pas les exportations, nous arrêtons l'exportation chez vous de micropuces servant au guidage de missiles antimissiles. Il se trouve que la décision a été prise dans l'après-midi de relancer les exportations de la part de l'Inde au niveau mondial. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la vraie souveraineté, ce n'est pas de produire tout chez soi de manière disponible, c'est de sécuriser ses approvisionnements en créant des interdépendances stratégiques. Or, aujourd'hui, sur quel bien à forte valeur ajoutée et à forte valeur stratégique se positionne la France? Malheureusement, à part le nucléaire et encore la plupart des ingénieurs ne sont plus forcément sous pavillon français, on n'a plus vraiment de grandes stratégies, de grandes technologies qui nous permettent de dire vous pouvez justement ne pas faire de rétention sur ce bien-là, sinon nous, en échange, on ne vous envoie plus.
Mais vous dites même on est en train de se tiers-mondiser.
Mais en fait, non, ce que je dis, c'est que si le Doliprane aujourd'hui est un actif stratégique de la souveraineté sanitaire française...
Vous dites on en est là.
Si on en est là sur un produit dans lequel on fait 200 millions d'euros de bénéfices, on va dire, de marge par an et qui est consommé et dont la molécule a été synthétisée en 1887 par deux Strasbourgeois et que vous pouvez aujourd'hui synthétiser en deuxième année d'un TP de chimie, effectivement, si ça tient à ça, notre souveraineté sanitaire aujourd'hui, on n'est plus la grande puissance qu'on espérait.
Laurence Cohen.
C'est pas une histoire de se focaliser sur un médicament, c'est en fait analyser les politiques qui ont été menées. Or, ça fait depuis plus de 40 ans qu'il y a des délocalisations en cascade. Il ne s'agit pas de dire ici, finalement, il faut relocaliser toute l'industrie pharmaceutique en France. Ça serait une hérésie et ça serait complètement impossible. Et personne ne le dit et personne ne le soutient. Mais simplement, et on l'a vu pendant la crise du Covid, il faut qu'il y ait des coopérations avec l'Europe et on peut effectivement faire en sorte qu'il y ait une relocalisation au niveau européen des médicaments. Et par exemple, pour la France, là, il va y avoir deux usines qui vont s'ouvrir, une à Toulouse et Séquence, Roussillon, pour le Doliprane précisément. Mais il faut quand même savoir que les politiques qui ont été suivies, ça veut dire qu'il y a 80% des principes actifs qui sont en Asie. Ça veut dire que les ruptures, elles touchent à 70% les médicaments matures. Donc, ce que nous prenons, et la majorité de ces médicaments, ce sont des médicaments sans ordonnance. Donc là, il faut peut-être se poser une question, pourquoi? Et moi, je pense que la santé, eh bien, ça n'est pas une marchandise et qu'il faut que ça soit un bien commun et que donc, on ne peut pas appliquer les mêmes règles.
Alors, attendez, vous allez réagir, mais on va évoquer par rapport aux principes actifs et au paracétamol, une perspective de paracétamol fabriqué à 100% en France en
2025-2026.
C'est demain.
Oui, alors pour rappel, le Doliprane, vous l'avez dit, les Feralgan et leurs génériques sont fabriqués à partir d'un principe actif qui est donc le paracétamol. Et depuis 2008, c'est la date à laquelle toutes les usines européennes ont fermé à cause de la concurrence étrangère, eh bien les laboratoires pharmaceutiques sont obligés de s'approvisionner en Inde, en Chine ou aux États-Unis. Mais depuis les pénuries post-Covid, les industriels français se sont mis en ordre de bataille pour relocaliser le principe actif en France, vous l'avez dit, avec la création de deux usines. La première à Toulouse doit ouvrir début 2025. Le paracétamol sera fabriqué à partir d'ingrédients de base qui sont sourcés uniquement en France ou en Europe. Mais attention, prévient déjà le président de cette usine, ce paracétamol va coûter 30 à 40% plus cher que celui qui vient de l'étranger. L'autre usine, la deuxième, donc, qui doit produire elle aussi du paracétamol, devrait voir le jour en 2026, en Isère cette fois, et elle est gérée par le chimiste Séquence. Le principe actif donc, du paracétamol sera ensuite revendu à des laboratoires pharmaceutiques, qu'ils soient français ou étrangers, et eux vont le transformer ensuite en comprimé et le commercialiser sous un nom de marque. Et d'ailleurs, le laboratoire UPSA se félicite déjà d'être le premier à pouvoir vendre dès le printemps prochain, donc mars 2025, un médicament à partir de paracétamol 100% français. Nathalie Gimenez, est-ce que finalement, le plus important, ce n'est pas de maîtriser la fabrication de ce principe actif plutôt que de se focaliser sur la vente d'une marque, notamment du Doliprane?
Oui, alors il faut vraiment comprendre comment ce mécanisme, il est très important parce que depuis maintenant 3 ans, en fait, il y a une coopération publique-privée. Et enfin, moi j'appelle ça un modèle de souveraineté responsable. Enfin, on s'est mis autour de la table,
parce que l'intérêt général, il est là, c'est de permettre justement d'amener du paracétamol quand les patients français en ont besoin. Donc en fait, il y a eu quand même, l'État subventionne
oui,
la modernisation
du plan 2030, donc, notamment.
Exactement, dans le cadre de programme France 2030, donc il accompagne l'entreprise Sequens à moderniser ses chaînes d'approvisionnement. Il accompagne, c'est l'Occitanie qui donne 15% à peu près du montant pour l'usine Ipsophène. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'État a permis à UPSA et à Opella, d'accord, de prendre des engagements d'achat sur du long terme pendant plus de 10 ans pour en contrepartie d'un moratoire sur la baisse de prix du paracétamol. Parce qu'il faut savoir que ce prix diminue depuis 10 ans et qu'aujourd'hui, voilà, donc on revient à la niveau de rentabilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les usines innovent très fortement en termes de technologie, amènent de l'innovation pour pouvoir réduire les coûts de production en apportant une empreinte environnementale.
C'est une sorte de partenariat public-privé.
Oui, c'est ça.
Mais en même temps, Ewan Tison, c'est vrai que quand on voit fonds de pension, on voit rouge parce qu'on se dit que derrière, il y a démantèlement.
Et d'ailleurs, vous parlez de Sequence.
Le gouvernement, il a fait la pression là. Il demande un bilan des aides dont a bénéficié Sanofi ces 10 dernières années. C'est tombé cet après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes-là?
Son investisseur principal à Sequence, c'est un Américain.
Ah. Vous savez, on n'aurait pas ce débat-là si par exemple on avait mis en place un mécanisme de retraite par capitalisation. Aujourd'hui, ce serait les retraités de la Creuse qui
rachèteraient. C'est votre dada.
C'est mon dada, vous savez. Je sais. Je pourrais venir dessus, mais aujourd'hui, si on avait par exemple ce genre de
mécanisme. Parce que ce fonds de pension américain appartient
à des retraités du Texas et du Missouri. Mais là, si on avait mis la capitalisation, c'est les retraités de la Creuse qui pourraient acheter Sanofi et potentiellement faire une SCOP.
Tout
donc, en fait, c'est un problème de réflexion économique de manière globale. Et si vous permettez juste sur
SCOP, ça veut dire que ça appartient aux
salariés. Et ça pourrait être fait d'ailleurs avec de l'argent frais. D'ailleurs, c'est pour ça que la notion même de nationalisation, on parle quand même de 16 milliards d'euros. L'État n'est pas prêt à mettre 16 milliards d'euros dans un.
L'État, avec la situation
dont vous parlez très régulièrement sur ce plateau-là. Donc, effectivement, peut-être que changer de logique économique, mais surtout que ce soit sur l'approche qu'on a de l'innovation, l'approche qu'on a de la R&D, l'approche qu'on a des interdépendances stratégiques au niveau mondial, revenir aussi sur des principes Ricardio et Smithien, c'est-à-dire de division du travail, division de la production, que semblent avoir oublié certains de nos politiques, ça serait pas mal peut-être parce que ça nous permettrait de se moderniser et d'éviter justement ce déclassement.
Ce que vous oubliez quand même, c'est l'argent public qui a été versé aux grands labos. Moi, je fais une différence entre les labos 440 et puis les petits labos, puisque on a fait la différence au niveau de notre rapport. Et le crédit impôt recherche, c'est 710 millions d'euros par an et qui sont données, donc l'industrie pharmaceutique est le deuxième bénéficiaire du crédit impôt recherche. Sanofi, il faut savoir que c'est en 10 ans 1 milliard 500 000 euros dont il bénéficie, si je parle seulement du crédit impôt recherche. Or, si vous voulez...
D'ailleurs, le gouvernement a demandé un bilan de toutes les aides.
Donc, il y a un bilan à faire et le gouvernement le sait parfaitement.
Il vient de le demander aujourd'hui.
Oui, mais il vient de le demander, excusez-moi. En 2023, on est allé chercher à Bercy...
Donc, il a déjà les réponses dans votre rapport.
Voilà, il a qu'à lire.
Il a appris à lire
Il le saura.
Et la chose que je voudrais dire et qui est importante à souligner, c'est que moi, je suis pour le pôle public du médicament.
Mais vous êtes pour la nationalisation quand vous dites pôle public ou pas ?
Je suis pour le pôle public du médicament. Je suis pour le pôle public du médicament. Et toutes les sensibilités politiques ne se retrouvent pas au niveau du Sénat sur cette proposition. Mais nous sommes arrivés à quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire dire que sur une cinquantaine de médicaments essentiels, il y ait une production publique qui puisse
nationalisation,
être faite.
Donc ça veut dire nationalisation.
Et sur la nationalisation, moi je pense que si vous voulez, il ne faut pas que ça soit un tabou, ni une coquille vide. Pour que ça soit efficace, il ne faut pas que ça soit l'État qui soit le seul patron. Il faut qu'il y ait une appropriation sociale et qu'il y ait les salariés, les personnels soignants, l'État, la sécurité sociale, etc., qui mettent la main à la pâte. Et là, effectivement, ça serait important. Mais aujourd'hui, le gouvernement peut déjà se servir d'un levier. C'est aussi important de le dire parce qu'un levier, il l'a tout de suite. Il y a le décret Montebourg où il peut bloquer.
Les procédures de contrôle des investissements étrangers.
Moi, je vais quand même rebondir sur quelque chose. Je pense qu'on ne s'en sortira pas. D'abord, quand on parle de souveraineté, parler de souveraineté à l'échelle de la France, je pense qu'on n'est pas sur la bonne échelle.
Je veux dire, c'est l'Europe.
Donc, déjà, c'est la souveraineté. européenne. Deuxièmement, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut sortir des modèles de subvention. On n'arrivera pas à continuer à moderniser, à répondre aux enjeux contemporains en étant à coups de subvention. Or, la France ne sait que agir de cette manière. Non, le problème qu'il y a là, c'est qu'il faut dépasser ce sujet et il faut créer des nouveaux modèles économiques,
il faut aller chercher des investisseurs dans ce cas-là.
Et oui, et c'est ce qu'on est en train de faire. Sinon, il faut partager les risques. Et donc, pour moi, à l'échelle de l'Europe, si vous voulez évidemment faire de la vraie souveraineté européenne, évidemment, c'est 300 molécules stratégiques où on rapatrie la production. Et là, effectivement, on arrive à partager les risques.
C'est national.
Pourquoi ce modèle il est intéressant qu'on vient de voir, public-privé ? Parce qu'ils partagent les risques et les ambitions.
Alors, le gouvernement n'est pas opposé pour l'instant à cette opération, à cette cession, mais il veut des garanties. Mmh. Écoutez Marc Ferracci, le nouveau ministre chargé de l'industrie.
Nous allons demander à Sanofi et au fonds d'investissement qui apparemment est retenu, des engagements sur l'emploi industriel, ça c'est essentiel, des engagements sur les volumes produits. Si ces engagements n'étaient pas pris, eh bien il y a aujourd'hui dans le code monétaire et financier une possibilité de bloquer cette vente.
Et si ces engagements n'étaient pas pris, vous bloqueriez cette vente ?
Eh bien écoutez, effectivement, c'est les objectifs qu'on s'est fixés et donc nous avons cette option qui est tout à fait sur la table.
Erwan Tison, c'est une menace en l'air ou vraiment le gouvernement peut agir ? Il y a les moyens financiers. Vous le disiez tout à l'heure, ça coûterait des milliards de...
Oui, 16 milliards.
Bon, 15 milliards, 16 milliards.
Bagatelle. 16 milliards plus les frais de gestion, etc. Mais moi, je pense que c'est... Non, mais c'est pour répondre à... Oui, mais on peut tout taxer. On peut taxer les riches, on peut taxer les dividendes, on peut tout...
Mais justement, les riches ne sont pas taxés, monsieur.
Oui, d'accord. C'est ça. Mais c'est une mission sérieuse, donc on plus...
Ben justement, sérieusement, pas à hauteur de ce que le commun des mortels...
On peut lancer un débat sur la fiscalité. La séquence politique, et d'ailleurs on voit bien que le ministre effectivement le dit, quand en plus on connaît son parcours et ses écrits d'économiste, parce que ça a été un brillant économiste avant d'être un ministre, de voir justement être obligé de défendre quelque chose auquel il ne croit pas, on a un peu de mal là-dessus. Mais vous savez, c'est la séquence qui veut ça. Moi, ce que je souhaiterais, en tout cas d'un point de vue d'observateur, c'est juste de se dire si cette séquence-là pouvait nous permettre d'ouvrir un débat effectivement, ce que je vous disais avant sur l'interdépendance stratégique qu'on se doit de créer, et qu'est-ce que la souveraineté aujourd'hui au XXIe siècle ? Un exemple tout bête, collusion de l'actualité, regardez les annonces qu'a fait, on peut penser ce qu'on veut du bonhomme, d'Elon Musk ce week-end. On se retrouve quand même avec l'impression d'avoir un monde qui se crée de l'autre côté de l'Atlantique, et nous avec des débats qui sont du siècle dernier. On peut se dire de quoi a besoin les technologies qui sont en train d'être lancées aux États-Unis. Du quantique, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, plutôt que de mettre 16 milliards sur le rachat d'Opella, allons sur la technologie quantique dont auront besoin les véhicules de M. Musk et des Chinois pour pouvoir circuler.
Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde ? Est-ce qu'il n'y a pas des priorités autres que le paracétamol et le doliprane aujourd'hui ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mener un combat qui est déjà derrière nous ?
Mais non, le combat n'est pas derrière nous parce que c'est un pôle public de la santé ou un pôle public du médicament, parce que la santé, c'est notre bien commun. Et c'est complètement différent que de vendre des voitures ou autre chose.
Non, mais ce que je veux dire, c'est comme ça, on sera sûr d'avoir du paracétamol si on vend du
quantique. Ce que je voudrais ajouter, c'est comment est-ce qu'on peut être certain que demain, avec cette vente, ça reste quand même, Opella reste en France, alors que Sanofi a annoncé quand même 1200 suppressions de postes à nouveau, dont plus de 300 à Vitry, et comme par hasard, c'est dans le secteur de développement.
Pourquoi ces emplois n'iraient pas sur la fabrication de médicaments oncologiques, par exemple, pour la lutte contre les cancers ? Pourquoi il ne peut pas y avoir ça ?
Vous, monsieur, justement, c'est dans la recherche et le développement qu'ils sont supprimés, c'est-à-dire un savoir-faire sur ces questions-là. Donc c'est là qu'il y a une contradiction et que l'on marche sur la tête. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, à partir du moment où l'État donne de l'argent, il faut qu'il y ait des conditionnalités.
Nathalie Jiménez.
Oui, d'abord, l'achat à 50% d'Opella ne remet en aucun cas la disponibilité demain du paracétamol en France. Je pense qu'il faut rassurer les Français tout de suite. Il y aura du paracétamol, il n'y aura pas de pénurie. Non, mais je pense vraiment. D'abord, parce qu'il n'y a pas que Sanofi qui fait, Opella qui fait du paracétamol.
Ça, vous parlez du PAPSA, pour
une réaction territoriale qui s'engage, ils sont topissimes, ils pourraient monter encore plus les volumes, même ce qui ne représente que 22% des parts de marché. Donc ça, déjà, c'est une chose. Deuxièmement, si on veut attirer des producteurs sur le territoire, il faut que l'État crée les conditions favorables à une viabilité des modèles économiques. J'y reviens. Donc ça, ben voilà, moi, ce qui m'importe demain sur la pérennité du modèle, c'est comment l'État va sortir sortir des subventions, accompagner un vrai modèle économique, augmentation des prix, miser c'est sur pas l'écologie, etc. Des prix.
On a prouvé que dans d'autres tout, pays,
très bien. Alors les écoutez, prix sont plus élevés, il y a pénurie. On renvoie à votre rapport et on reprendra ici dans quelques semaines. Au contraire, c'était passionnant. Merci infiniment. Merci vous avez levé nos maux de tête. Merci à tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.